Canal Académie. Petite histoire de science. Avec Étienne Gis. Le podcast de l'Académie des sciences.
Je suis face à Hélène Bouchiat. Hélène, tu es physicienne. On ne va pas vraiment parler physique aujourd'hui. Et on va parler d'une chose qui t'intéresse, puisque tu viens de présider ou de diriger la conception d'un rapport de l'Académie des sciences sur le statut des femmes dans les sciences. Et puis, j'aimerais qu'on parle peut-être dans un deuxième temps d'un peu de toi, ou plus précisément de ta maman et de ton papa, puisque tu es académicienne, mais tu es aussi fille d'académicien. Et c'est une question qui est un peu centrale aussi, la reproduction sociale ou la reproduction scientifique, que tu nous expliques un peu comment ces choses se sont passées. Est-ce que tu es vraiment la fille de ta maman, scientifiquement, j'entends.
Je peux peut-être dire un mot sur la genèse. Pour moi, pourquoi je me suis impliquée là-dedans? C'est vrai que l'Académie avait été mandatée pour un autre rapport sur le financement pluriannuel de la recherche et elle avait donné un certain nombre de recommandations. Et en particulier, elle s'était attachée au fait que la recherche en France n'attirait plus les jeunes. Et elle donnait deux recommandations pour ça. Il faudrait, premièrement, augmenter les salaires. Et deuxièmement, donner aux jeunes chercheurs plus de moyens pour faire leurs recherches. Mais sans poser, pour moi, une question fondamentale qui était le problème des postes, c'est-à-dire du recrutement de ces chercheurs. Et sans poser, bien entendu, le problème aussi de la situation des femmes. De par ce que je voyais autour de moi, j'avais l'impression que les problèmes étaient très corrélés. Moi, j'avais eu la chance d'arriver dans un laboratoire où il y avait beaucoup de femmes, 30% de femmes, en 1980. Je me suis rendu compte que c'était un peu exceptionnel, mais c'était aussi le cas, par exemple, des laboratoires à l'école normale à l'époque. Pour moi, au départ, c'était pas quelque chose d'extraordinaire.
Donc ce premier laboratoire dont tu parles était où ?
Ben, c'est toujours le même, d'ailleurs. Je veux dire. C'est à Orsay, laboratoire, ça s'appelle le laboratoire de physique des solides. Et puis, avec le temps, j'ai vu que non seulement ce nombre n'augmentait pas, mais il avait plutôt tendance à diminuer. Et puis surtout, j'ai vu aussi l'âge moyen de ces femmes augmenter. J'ai eu plus d'étudiants que d'étudiantes, ça c'est malheureusement la règle générale.
Mais dans la même proportion, un tiers de femmes et deux tiers d'hommes ?
Non, j'ai eu un peu... parce que dans mon domaine, en fait, il y a comme plutôt moins. C'est-à-dire que dans mon laboratoire, il couvre plusieurs domaines. Enfin, je pourrais... expliquer la structure fine de tout ça. Mais il y a ce qu'on appelle la matière dure et la matière molle, très très schématiquement. La matière molle est plus reliée à la biophysique, enfin c'est très schématique.
Donc la matière dure, c'est essentiellement masculin.
Non, mais c'est terrible, mais c'est ça. Puis c'est des grosses manips, voire au transfert de l'hélium, tout ça. Mais moi, ça m'amusait plutôt. Mais effectivement, c'est plus de la physique de gars. Voilà. Non, mais c'est vrai, hein, c'était comme ça. Mais bon, malgré tout, il n'y avait pas de problème particulier. Mais là, c'est vrai que l'évolution me paraît pas très bonne. Alors, j'ai essayé d'analyser cette évolution. Et une des premières causes qui m'a paru très claire, c'est que l'âge moyen du recrutement a énormément augmenté.
Mais... par recrutement, tu veux bien dire l'obtention d'un poste permanent qui se fait de plus en plus après des stages postdoctoraux.
Oui, exactement. Un postdoc, deux postdocs, trois postdocs. Et vraiment, je ne crois pas mentir en disant que l'âge du recrutement a augmenté de 10 ans. C'est-à-dire qu'on est passé de 25 ans à 35 ans.
Et tu crois que c'est corrélé avec les questions de genre ?
Oui, je pense. Je pense parce que effectivement, pour des raisons très simples et évidentes, moi je sais que j'ai eu mes trois enfants avant 35 ans. J'avais au moins pas ce souci de devoir me promener à droite et à gauche pour trouver un poste. J'avais mon poste. C'était pas toujours simple malgré tout.
Toi, tu as eu ton poste à quel âge ?
Moi, c'est presque scandaleux. J'ai eu mon poste à 23 ans.
Ces recrutements tôt permettaient à une femme d'avoir une vie de famille, d'avoir par exemple des enfants,
oui, oui.
Sans ressentir de pression pour la suite de la carrière.
Alors, il y avait quand même de la pression, parce bien que là, la recherche, c'est de la pression. Il y a des choses qui ne marchent pas.
Mais
y a...
moins que s'il s'agissait d'attendre pour avoir un poste permanent comme aujourd'hui.
Ah, ça me paraît évident.
Si c'est trop personnel, tu me le dis. Est-ce que le fait d'avoir tes enfants a perturbé ta vie scientifique ?
Par moments, oui, quand même. Enfin, je dirais que c'est surtout quand les enfants sont malades, quoi, quand tu es appelé au milieu d'une expérience. Et puis, bon, bah, il faut y aller, quoi. Il faut, voilà. Et non, c'est vrai. Mais j'ai eu la chance, moi, d'avoir un époux qui prenait vraiment sa part et plus que sa part. Donc, on se partageait. Et puis, j'ai eu la chance aussi de pas avoir d'enseignement à faire.
D'accord. Tu étais CNRS ?
Oui. Alors, je pense que pour une enseignante, c'est bien plus compliqué.
Donc, ce que je résume de ce que tu viens de me dire, c'est que il te semble que ces recrutements permanents de plus en plus tardifs, en quelque sorte, détournent les femmes de ce travail puisqu'elles n'ont pas suivre que parce que la pression est plus grande, etc.
Oui, mais ce n'est pas seulement une pression, c'est le fait qu'on devient, enfin, j'exagère peut-être un petit peu, mais on devient un peu des mercenaires de la recherche. Enfin, moi, j'ai vu des personnes qui ont fait 3 post-docs dans des endroits différents, sur des sujets différents, et qui, du coup, avaient du mal à même présenter une vision cohérente de leur travail de recherche. Parce qu'ils avaient pris là où il y avait de la place. On avait l'impression qu'ils n'avaient pas choisi. Et c'est vrai que nous, on avait la chance, quand on avait un poste, c'est que très vite, on choisissait notre cheminement scientifique. C'est vrai que j'ai eu un poste très jeune, donc j'étais pas complètement autonome sur beaucoup de choses, mais très vite, j'ai choisi ce que je voulais faire. Alors, je le faisais pas toujours très bien, j'avais besoin d'aide. J'ai dû faire appel à d'autres compétences autour de moi. Mais c'est comme ça que, pour moi, la recherche se construit.
Et la conclusion, ta recommandation ?
C'est de proposer des postes pour des jeunes, peut-être pas aussi jeunes
que 23 ans,
qui permettent effectivement aux jeunes chercheurs de démarrer leur recherche au sein d'une équipe, tout en développant, parce que tout le monde pense, ah oui, mais à ce moment-là, ça va être des petites mains. Mais non, ils peuvent développer leur sujet propre au sein d'un groupe. Et c'est comme ça, un peu, que ça fonctionne dans notre équipe. Et là, c'est vrai que ce qui est intéressant, c'est que ce mode de travail peut être très souple. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui aiment bien continuer à travailler en équipe, très fortement en équipe. Moi, j'ai des collègues comme ça avec qui je travaille depuis 20 ans et on fait tout ensemble. Et c'est formidable. Mais j'ai d'autres collègues qui préfèrent avoir plus d'autonomie. Et ils ont cette autonomie, quitte à ce qu'on discute beaucoup, qu'on s'entraide.
Peut-être expliquer que ton travail est en bonne partie expérimental.
Oui, tout à fait.
Donc, prenne la présence face à une machine. Et que
tout à fait.
Si le collègue ne vient pas à 8 heures alors qu'il avait dit qu'il le serait, c'est bien ennuyeux.
Oui, très honnêtement, il n'y a personne à 8 heures chez nous. Hein. voilà, ça se passe. Par contre, il y a des gens tard le soir.
Les gens travaillent. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a parfois un besoin vital.
Ah ben, il y a
de
la coordination. On est relativement présent. Et même pendant le Covid, on était présent. On a très très peu. Ça, c'était bien parce que ça nous a aidé psychologiquement. Je pense qu'on a été très peu confinés parce que justement, on a fait valoir qu'on avait besoin d'être là.
Très bien. Donc, je retiens ta recommandation. C'est
les postes pour
les gens soient recrutés plus tôt.
Si j'en rajoutais une, parce que c'est un peu relié, c'est aussi de déconstruire un peu une certaine image, qu'on a vu d'ailleurs se développer ces dernières années. L'image du leader qui vient du monde anglo-saxon, c'est du grand leader scientifique. Faire rappeler, d'ailleurs l'histoire des sciences peut nous aider à ce niveau-là, que souvent les découvertes, c'est un travail d'équipe, où des compétences complémentaires ont permis d'arriver à un beau résultat. Voilà, c'est tout simple. Alors après, il y a des modes de fonctionnement d'équipe qui sont très différents les uns des autres.
D'ailleurs, la plupart des manuels scolaires, on présente souvent la science comme étant des grands, des Newton,
des
Kepler,
des
individus brillantissimes.
Il y a une galerie de portraits.
Voilà, la galerie de portraits, on les a tous en tête.
Oui, oui.
Et ils avaient des gens autour d'eux.
Tout à fait.
Une armée ne fonctionne pas qu'avec des généraux.
Enfin, moi, je n'ai jamais été le général de qui que ce soit. Et j'insiste. C'est vrai que moi, j'ai des étudiants qui étaient brillantissimes et j'étais leur technicienne. Et j'ai adoré ça. Voilà. Et parce que dans certains cas, on a la bonne idée, puis dans certains cas, on ne l'a pas. Et à ce moment-là, on se met ensemble pour travailler sur la bonne idée. Et moi, j'ai adoré, dans certains cas, d'avoir une idée que je trouvais bonne, mais que je n'étais pas capable de mettre en œuvre moi-même, mais qu'on a mis en œuvre à plusieurs. Et d'autres fois, j'ai pas honte de dire que ce n'était pas moi qui avais eu l'idée. Mais je la trouvais belle et on a travaillé ensemble pour la faire marcher. Voilà, pour moi, c'est comme ça que ça avance, les choses.
« Alors, on aborde peut-être la deuxième partie de cette conversation. Oui. Donc, ta maman est une grande physicienne, ton père aussi est un... Est-ce qu'ils faisaient la même chose ?
Mon père était théoricien, elle était expérimentatrice. Mais ils ont, en fait, par moments, travaillé ensemble.
Donc, à la maison, ça a parlé de physique ?
Tout à fait.
D'accord. Comment tu as vécu ça quand tu étais petite fille ?
Alors, c'est variable. Au départ, c'était un peu mystérieux. Bon, j'arrivais pas trop à comprendre de quoi il parlait. Mais bon, justement, mais on avait des noms comme ça. Ça devenait un jeu. On jouait des fois avec ma sœur et puis au labo. On comprenait pas ce qu'on faisait. Mais on disait, on fait de la physique. On savait pas trop ce que c'était.
Donc au lieu de jouer à la marchande, tu jouais à la physicienne.
Oui, mais j'avais pas compris. À un moment donné, quand j'étais toute petite, j'avais pas compris la différence entre physique et musique. Tu vois, bon, c'est pour te dire le niveau. Plus tard, j'ai compris effectivement qu'il y avait une passion derrière. Ça correspondait à l'époque où ils ont plus travaillé ensemble. Et là, des fois, je ne cache pas que je trouvais ça agaçant parce que, bon, on voulait faire des choses et puis ce n'était pas possible parce qu'ils avaient un papier à écrire et tout. Non, ça, je trouvais ça, j'ai eu des moments un petit peu plus de rejet.
Mais tes parents s'intéressaient à d'autres choses que la science ?
Tout à fait, puisqu'on faisait plein de choses avec eux. Mais justement, il y a des moments où je trouvais que ça prenait... en particulier, moi, je pense à la montagne.
Donc à l'école, tu étais la gamine très bonne en maths et en physique, j'imagine ?
Moi, j'aimais tout à l'école. C'était pas forcément bien vu d'être bon qu'en maths. Oui, je me souviens très bien de ça, parce que j'avais des camarades très littéraires qui parlaient bien, etc. J'étais un peu complexée parce qu'elles parlaient bien mieux que moi. Et puis, inversement, je me rendais compte qu'on trouvait un peu ridicule. Ça faisait un peu polar d'être bon en maths. Bon, je ne mettais pas trop ça en avant.
Donc, à l'évidence, si tu es devenue physicienne, c'est en particulier parce que tes parents étaient physiciens.
Oui, mais ça, c'est clair. Ça a joué un rôle. Au départ, je voulais plutôt être astrophysicienne, d'ailleurs, parce que j'avais vu une conférence magnifique au Palais de la Découverte. Sur la naissance de l'univers, j'avais trouvé ça fantastique.
Bah c'est fantastique.
Oui. Mais effectivement, j'avais 16 ans et j'avais eu l'impression d'avoir... Justement, j'avais même lu des choses. Après, ça m'avait beaucoup motivée. J'ai même fait un stage de radioastronomie. Puis après, bon, je me suis dit, c'est pas mal, mais quand même, on est un peu loin au niveau expérimental. Et c'est vrai que j'ai découvert les expériences assez tard, finalement, parce que j'avais fait d'abord des maths. Et ça m'a vraiment beaucoup plu, même si j'étais pas spécialement douée.
Est-ce que tu dirais que ton exemple est un peu typique ? Est-ce que beaucoup de femmes scientifiques ont une famille scientifique ?
Ouais, c'est possible. Ah ouais, tout à fait. Ça paraît quelque chose d'abordable. Ça m'a beaucoup aidé à surmonter un certain nombre de choses malgré tout, parce que j'ai vu que c'était surmontable, du coup.
Donc évidemment, tu ne peux pas renier ça. De toute façon,
c'est partie de ta vie. Non, ce serait malhonnête. Oui, tout à fait.
Voilà. Mais est-ce qu'on peut en tirer des conséquences ? Sur la manière d'instaurer l'envie de faire de la science aux enfants ?
Oui, peut-être, parce que ce que je sentais, c'était la passion. Et ça, c'est vrai que je me rendais compte qu'ils faisaient un travail extraordinaire. C'était un des métiers, peut-être un peu comme un métier artistique, finalement, mais peut-être moins difficile, malgré tout, qu'un métier de création artistique, où on pouvait travailler, non pas par devoir, mais pas par passion.
Alors, je vais poser une question qui est peut-être un peu plus directe, peut-être un peu grossière, d'ailleurs. Est-ce que tu dis que tu rentres à 23 ans au CNRS. Est-ce que tu crois que le pouvoir académique de tes parents a pu jouer un rôle dans cette promotion rapide ? Est-ce que le fait que tu sois fille d'académicien, en fait, hein, a été utile dans ta carrière ?
Alors, ils n'étaient pas académiciens à l'époque.
Oui, mais enfin, ils avaient
Ils avaient une certaine notoriété.
Ils avaient un pouvoir.
Oui, mais je dois dire que ça ne les intéressait pas, le pouvoir, franchement. Mmh. Je pourrais te citer des phrases de mon père qui sont terribles à ce sujet-là, je ne sais pas. Lui, il me disait, tu sais, le pouvoir, c'est d'abord un pouvoir de nuisance. Voilà, c'est pour te... il aimait bien les bons mots comme ça.
Donc tu veux dire que dans ton milieu, les gens ne disaient pas, c'est la fille de...
Pas trop. Ils étaient à Paris, à l'école normale. Ouais. J'ai bien compris quand même que ça aurait été maladroit d'aller faire ma thèse à l'école normale, parce que j'ai fait à l'époque, ça s'appelait le DEA. Et là, je me suis retrouvée à beaucoup de leurs collègues. Et ça, je trouvais ça très gênant.
Ah, ceux qui te regardaient d'un drôle d'air, disaient « Ah, c'est la fille d'eux ».
Oui, non, mais voilà. Ça, certainement. Puis j'avais l'impression qu'il y avait des choses qui diffusaient, qui n'auraient pas dû diffuser. Enfin, non, c'est vrai que là, je me suis rendu compte que j'ai fait... Mais justement, je n'ai pas prolongé l'erreur. Je suis allée à Orsay. Et là, disons, j'étais beaucoup... Enfin, ils étaient un peu connus quand même, mais ça n'avait rien à voir.
Donc, finalement, tu peux être fier de toi-même, en quelque sorte.
Non. Mais j'étais gênée. Parce que des fois, quand j'avais les choses qui ne marchaient pas, est-ce que, justement, c'est une question que je me suis posée, est-ce que je fais ça parce que je suis la route de mes parents, ou est-ce que je suis vraiment motivée? Et puis, quand ça ne marchait pas, on n'est plus trop motivée. Et donc, j'ai eu quand même des moments de grand découragement.
Alors dis-moi, on a parlé de tes parents, parlons de tes enfants. Est-ce que tu as des enfants qui ont une coloration scientifique? Tu as 3 enfants, tu as combien de garçons et de filles?
J'ai 2 filles et 1 garçon. Alors ils ont tous fait des études scientifiques.
Oui.
Ma fille aînée a fait...
Si c'est trop personnel, tu le dis pas. Hein.
Oh non, voilà. Mais je suis très fière de mes enfants.
D'accord.
ils m'ont éduqué à être mère, ce qui n'était pas évident. Donc, vraiment, ils sont super. Donc, ma fille aînée travaille dans une grosse entreprise de BTP, à FH. Donc, elle a fait l'école polytechnique. À un moment donné, elle voulait être professeure de mathématiques, d'ailleurs. Et puis, elle a bifurqué. Elle est scientifique, mais dans un milieu quand même très technique. Et elle est la seule femme au milieu d'hommes. Mais elle s'en sort bien. Ma seconde fille, elle a fait médecine. Elle est médecin à l'hôpital.
Parce qu'on peut préciser que ton mari est aussi un scientifique.
Oui, tant qu'à faire, oui. Et puis, mon frère aussi, donc effectivement. Mon fils, lui, a fait une thèse en physique. Et là, il est postdoc à Grenoble.
Et il fait de la physique un peu comme toi ou comme...
Non, il se trouve que je ne connais pas les gens avec qui il travaille. Mais bon, c'est assez proche malgré tout. Mais il se trouve que c'est un domaine quand même assez différent. Voilà, je ne vais peut-être pas rentrer dans les détails.
Ah, donc en quelque sorte, on vient de découvrir qu'il y a un gène de la physique.
Oui, tout à fait. Alors, on va voir. Hein. Il est en postdoc. Est-ce qu'il va tenir le coup? Voilà, vu dans un domaine quand même très compétitif. Bon, je crois qu'un jour, il aimerait bien avoir un poste aussi.
Donc il a plus que 23 ans et il n'est pas encore permanent. Alors, il me reste à remercier Hélène pour son témoignage et à souhaiter que son fils trouve un poste permanent aussi tôt que possible. Mais à vrai dire, je souhaite la même chose à tous les jeunes chercheurs et plus particulièrement à toutes les jeunes chercheuses. Vous avez entendu des extraits du Quatuor numéro 3 par Philippe Glass, interprété par le Quatuor Tana.
Petite histoire de science. Avec Étienne Gis. Le podcast de l'Académie des sciences. Canal Académie.